Silence tout d'un coup. Eh boy. Ouvrez, s'il vous plaît, avec moi vos Bibles au livre Colossiens, chapitre 1. Donc, on est dans Colossiens. On va continuer de lire cette épître et de essayer de comprendre ce que Seigneur veut nous dire aujourd'hui aussi. Donc, Colossiens chapitre 1, on va lire à partir du 24e verset. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force qui agit puissamment en moi. Continuons. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Amen. Donc, je pense que vous vous rappelez encore le message de la semaine passée. La semaine passée, on a lu un message très axé sur la divinité de Christ. Même le premier et le deuxième message de ce livre-là sont vraiment axés sur ce qui est Christ. On a fini ce passage où on raconte la divinité, la plénitude de Dieu en Christ, en parlant qu'il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Voir quelle est l'œuvre de Christ. Combien il s'est donné lui-même. Il a fait tout ce qui est nécessaire pour nous sauver. Et puis maintenant, on est passé au 24e verset, et en lisant celui-là, on regarde autre chose. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Je les achève en ma chair. Je lis une fois, deux fois, 10 fois, tu lis 20 fois et tu ne comprends pas. C'est quoi ça? C'est que ça n'a pas été assez. Est-ce que ça n'a pas été assez ce qui a été fait par Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que ce n'est pas assez ce qu'a fait Christ? Ben oui, c'est assez. Christ a fait tout ce qui est nécessaire pour nous sauver. Mais ici, quand je vois dans maintenant, je me réjouis dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je suis quand même ébranlé. Est-ce que c'est de l'arrogance? Est-ce que l'apôtre Paul se permet des choses que nous autres ne permettons pas de faire? Il souffre ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Mais il faut continuer de bien lire le verset. Et le verset nous dit, j'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ses souffrances, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour être sauvé. Ce n'est pas parce que Christ n'a pas assez fait afin que Paul soit sauvé. Mais Paul a une mission. Est-ce que vous connaissez un autre qui a une aussi importante mission que lui? Jésus est venu pour le brebis d'Israël. Il n'est initialement, il n'a jamais parlé des autres. Bien sûr qu'on a les prémices, on voit clairement dans ce qui est présenté dans l'Évangile que ça va s'ouvrir à tout le monde. Mais lui, il est venu avant tout pour les brebis d'Israël. Et on a donné à l'apôtre Paul une mission spéciale. Pour les nations. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre des nations. C'est quelqu'un qui fait un travail qui est quand même exceptionnel. Dans Philippiens 1, 12, 14, il parle de lui. Il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart de frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Lui, il a eu une mission particulière. Bien sûr que avant tout, il souffre aussi pour son peuple. À un certain moment, il nous dit quoi? Je suis capable de donner sa vie. Juste pour voir Israël, son peuple de quel il vient, qui sera sauvé. Il est capable de tout faire. Mais il a une mission spéciale, annoncer l'Évangile aux autres. Et il a énormément souffert pour ça. Il a souffert parce que les gens ont haï Christ. C'est tout simplement parce qu'on haït Christ. Parce que les gens haïssent Christ. Parce qu'il agit Christ, parce qu'ils ne peuvent pas maintenant se manifester leur haine contre lui-même directement, le font envers ceux qui le représentent. Pourront même dire que tous ceux qui travaillent pour Christ d'une certaine manière seront persécutés. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Si lui a été persécuté, il n'a pas dit, ok, c'est bon, moi j'ai été persécuté, moi j'étais dans la souffrance et vous avez une certaine liberté. C'est la même souffrance, on doit s'assurer nous-mêmes. C'est vers ça que le Seigneur nous amène, n'est-ce pas? Mais il y avait quelque chose qui m'a encore plus travaillé. J'ai regardé plusieurs commentaires, chacun comme interprète cela. Et il y avait quelqu'un qui m'a interpellé parce que ne me parle pas seulement de Paul, pas seulement des ouvriers qui tous, d'une certaine manière, souffrent pour la cause de l'Évangile. Mais ça part à tout le monde, à tout chrétien. Et c'est intéressant de voir dans ce sens, dans Matthieu 25, 34, 40. C'est un passage qui nous trouble aussi, n'est-ce pas? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondiront. Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avoir nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons recueilli ou nu ou t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade en prison ou sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ce petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ce texte m'a travaillé et m'a interpellé. C'est de voir que Jésus même s'est identifié avec tous ceux qui ont des souffrances. Parce qu'avoir faim, c'est une souffrance. Avoir rien à boire, c'est une souffrance, n'est-ce pas? Être malade ou en prison ou ailleurs, c'est une souffrance. Et Jésus dit, chaque fois que vous avez fait quelque chose à un, pas de ceux plus importants, évangélistes, prédicateurs, ouvriers que j'ai, mais un de plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Jésus s'est identifié avec le plus petit chrétien dans sa souffrance, dans sa persécution, dans ses besoins, dans ses manques. Et il est là. Et quand on visite quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui a un problème, ou quelqu'un qui est en prison, ou quand on prie pour eux, c'est qu'on fait ça à notre Seigneur. Et le Seigneur s'identifie avec nos souffrances. C'est quelque chose qui est si important que le Seigneur va accueillir tous ces gens-là. C'est la manière de s'identifier avec nous, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Une des questions, bien sûr, les plus importantes, c'est comment accepter la souffrance. Parce que c'est difficile d'accepter la souffrance. Quand tu es en train de lire ici, je me réjouis maintenant. Quand je souffre, est-ce que je me réjouis? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut dire, bah oui, je souffre, je me réjouis. Regardez juste de temps en temps sur Internet, où il y a parfois qu'on reçoit de la petite revue La Voix du Martyr. Tellement de gens qui sont persécutés, sont battus, mis en prison, tués à cause de leur foi. C'est difficile à dire que ces gens-là puissent affirmer facilement « Je me réjouis parce que je suis battu ». Moi, j'ai goûté juste un petit peu de ce qu'est la persécution pendant que j'étais dans un pays communiste. Avant, je n'étais pas persécuté comme tel. Il y avait une petite affaire. J'étais assez jeune pour que je puisse vraiment le faire. Mais même les petites choses, ça me dérangeait. Je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux du tout quand le téléphone a été écouté. Qu'on m'appelait de donner de compte, de faire des choses. Je n'ai pas aimé quand, il y a plusieurs fois, que je n'ai pas obtenu le poste que j'ai mérité l'avoir. Parce que j'étais chrétien. Je n'étais pas battu, je n'étais pas mis à mort, j'ai plein d'autres choses, des petites choses. Mais tu n'es pas content, tu souffres. Tu n'es pas heureux quand tu souffres. Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit, je me réjouis. Je me réjouis. Mais il ne se réjouit pas pour lui, parce qu'il souffre. Il se réjouit parce qu'il voit les fruits de cette souffrance. Il voit que malgré toute l'opposition qu'il peut avoir, la parole de Dieu avance. Malgré tout le mal qu'il peut en avoir, il avance. Il peut avancer. L'Église avance. On voit des autres églises qui commencent à implanter ici et là. On voit que ces gens-là qui ont accepté la parole commencent à grandir dans la foi. Et ça, il s'est réjoui à cause de ça. Il n'est pas content du fait qu'il a dû souffrir, tout simplement. J'ai trouvé assez intéressant en écoutant sur un monsieur, parce que je vous parle de mon passé, qui est vécu dans un pays communiste, quelqu'un qui a été extrêmement persécuté. Moldoveanu, c'est son nom, qui a été en prison, peut-être que Vourban, vous le connaissez, en même période avec lui, qui battu et tout le reste, laissé mort plusieurs fois, et qu'on a demandé après des années, comment il voit tout son passé dans les prisons et dans la persécution. Est-ce que, on le demande, est-ce qu'il aura l'occasion de ne pas vivre ça? Il aurait préféré plutôt. Il a dit non. Il a dit non. L'expérience que j'ai eue dans la prison avec Seigneur n'est pas comparable à rien, malgré toutes les souffrances. Moi, j'étais interpellé de nouveau là, des gens qui ont vraiment souffert. Et c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Ces gens-là sont encore capables de dire, malgré le fait que ça a été une souffrance énorme, j'étais là pour encourager les autres, pour parler de l'Évangile à ceux qui me persécutaient, pour parler de l'Évangile avec ceux qui étaient avec moi en prison. Et je serai capable de le faire de nouveau. Je suis capable de le faire. Donc, quand tu vois que la souffrance apporte quelque chose. Qu'il y a d'autres qui puissent comprendre la vérité. Qu'il y a d'autres qui puissent comprendre ce qui est Christ. Tu ne veux pas renoncer à ça. Parce que c'est très beau vivre avec Christ, souffrir avec Christ dans des conditions assez difficiles. Parce que tu vois un résultat. C'est l'influence qu'on peut donner. Là où je suis, là où Dieu m'a placé, que je suis ici, que je suis au travail, où je suis persécuté, que je suis ailleurs. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais plus facilement accepter la souffrance que dans ma jeunesse, je l'avais acceptée mal. Mais accepter de faire ça pour Christ, de ne pas renoncer, de ne pas s'esquiver facilement. Parce qu'on aime bien faire ça. Je vous parle de mon expérience. C'est beaucoup plus facile et plus acceptable de le faire comme ça, n'est-ce pas? Je me réjouis car je souffre, mais non pas pour attirer l'attention sur moi. C'est ça que l'apôtre Paul veut dire. Mais mettre l'accent sur Christ. Il ne veut pas que ça soit lui celui qui compte. C'est pour ça, quand il parle de lui et de sa souffrance, après avoir bien présenté Christ dans toute sa plénitude de la divinité. C'est ça qui compte avant tout. C'est présenter avant tout celui qui mérite tout l'honneur. Celui qui a accepté à mourir pour nous et sans... cette mort, on n'aurait été rien. Parce qu'on est ce que nous sommes. On est ce qu'il veut nous présenter, que nous serions, parce qu'on a eu Christ qui est mort pour nous sur la croix. Dans 2 Timothée 3, 12, lisons même de verset 11, on dit « Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La souffrance confirme de certaine manière qu'on est les enfants de Dieu. C'est comme ça. La souffrance veut affirmer, parce que dans Jean 15, 18, le Seigneur nous dit, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant. » Donc, comment on pourrait être, nous, les disciples, meilleurs que nos maîtres? Ce n'est pas possible. C'est dans ce sens-là, on sait très bien que du fait qu'on est persécuté, du fait que les gens ne nous aiment pas, c'est tout simplement parce qu'on est les enfants de Dieu. Pour nous, ça, c'est une évidence. Ça nous confirme qu'on appartient à Christ. Et cette souffrance nous rapproche de Dieu. Quand on est dans la souffrance, on est beaucoup plus proche de lui. Quand est-ce qu'on prie le plus? Quand on est dans la souffrance. Quand tout va bien, on n'est pas vraiment enclin à prier. Tout va bien, c'est correct. Mais dès qu'il y a un petit bobo, vite, on crie à Seigneur. Dès qu'il y a quelque chose qui nous arrive, à qui on s'adresse d'abord? Au Seigneur. On s'adresse à lui, évidemment. Ça nous rapproche. Ça nous rapproche de lui. Mais tout ça, selon ce qu'il dit Paul, pour son corps qui est l'Église, il accepte tout ça. Car de elle, j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Il est le serviteur, le diakonos, le ministre de cette Église. Seigneur lui a donné une charge. Tu seras l'apôtre des nations. Il ne peut pas ne pas le faire. Mais s'il le fait comme une obligation, parfois il le dit, je dois le faire quand même. D'autant plus qu'il le fait parce qu'il aime celui qui l'a envoyé. Parce qu'il aime la mission qu'il a reçue. Et il veut annoncer pleinement la parole de Dieu. Annoncer la parole pleinement. Pas demi-mesure, pas juste un petit peu, pas dire de demi-vérité, mais de dire la vérité. Et même annoncer le mystère caché de tout temps, de tout âge, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Disons que ça, c'est vraiment l'objet de la mission de Paul, annoncer pleinement l'Évangile, quelque chose qui est complètement différent de tout ce que nous avons su et de tout ce que les gens savaient avant. Disons, pendant l'Ancien Testament, ça ne fait pas très longtemps, on a regardé ces périodes-là, le peuple qui sort d'Égypte, et toutes les péripéties à travers le désert. Et une des choses que le Seigneur les a promis à ce peuple-là qui était dans le désert, c'est que si vous allez faire ma volonté, je serai au milieu de vous. N'est-ce pas? C'est une grande promesse. Seigneur, au milieu. On voyait même la tente, n'est-ce pas, du Seigneur était en plein milieu, et tout autour, il y a tout le peuple qui est autour de ça. Quand les choses sont allées pas très bien, le temps, on l'a mis à l'extérieur. Mais l'objectif de tout ce peuple, c'est d'avoir Dieu au milieu de son peuple. Et tous ces gens-là de l'Ancien Testament n'ont jamais connu ce que nous connaissons maintenant et ce que l'apôtre Paul est en train d'affirmer, qu'il y a quelque chose qui est différent, qui est radicalement différente de tout ce que les autres ont connu avant Christ. Parce que si avant ils ont connu Dieu en plein milieu du peuple, maintenant c'est quelque chose qui est complètement Christ en vous. Si jusqu'à là Christ était, oui, au milieu, oui, vous rassemblez, c'est bien. Mais maintenant, il veut dire Christ en vous. Sans Christ en vous, il n'y a rien. C'est le grand secret des dieux. C'est un secret que les autres voulaient en savoir. C'est à peu près la même chose que Moïse qui voudrait voir un petit peu ce qui était, n'est-ce pas, le territoire d'Israël qu'on donne au peuple qui vient d'Égypte. Mais il entrevoit de là où il est, on voit juste une petite partie. La grande partie du territoire, on ne le voit pas. Il voulait apercevoir qu'est-ce que ça va être l'œuvre magnifique de Dieu. Mais l'œuvre magnifique de Dieu s'est faite à travers Christ. Christ vient, celui qui était pleinement Dieu. Celui qui a toute la plénitude de Dieu. On nous dit dans quelques versets plus loin, dans chapitre 2, on nous dit qu'il est plein, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est lui qui a toute la plénitude de la divinité. C'est lui qui a fait ce travail extraordinaire. Nous diviniser nous-mêmes, d'une certaine manière. Parce que en fait, qu'il habite en nous-mêmes, les choses changent. Si avant, le peuple qui était en Israël n'était pas capable de tenir la loi, la seule possibilité de la tenir, de faire même plus, c'est quand le changement, ça vient de l'intérieur. Et la promission que nous fait, c'est le changement intérieur. Christ en nous. Il n'y aura pas d'espérance. Ça ne peut pas. On ne peut pas parler de l'espérance s'il n'y a pas un changement qui est produit comme ça, fort dans nous-mêmes. Dans le verset 15 de Matthieu 13, on nous parle de choses qui sont cachées. Parce que ce n'est pas toujours évident, ce n'était pas pour tout le monde qui était évident les choses secrètes de Dieu. Et là, il nous dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé les yeux, des peurs qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Ils ont endurci leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Alors, c'est impossible pour eux de comprendre. En Matthieu 11, verset 25, il dit, « En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je t'ai loué, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. » C'est une révélation. Les choses sont cachées parce que sont ouvertes juste à ceux que Dieu veut qu'ils comprennent. C'est dur à dire, mais vous vous rappelez très bien. Pendant toute cette période qui est racontée dans l'Évangile, n'est-ce pas, Jésus parlait à ses disciples en parabole. Pourquoi il parlait en parabole? Afin que les gens ne comprennent pas. Les choses étaient encerclées pour certains et ouvertes pour les autres. Parfois même les apôtres ne comprenaient pas non plus. Il fallait les expliquer bien. Chaque chose, ça c'est ça, ça c'est l'autre chose. C'est parfois ça. Dieu a caché les choses, mais est venu le moment après la résurrection de Christ particulièrement, que les choses ont changé. L'arrivée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a aidé tous ces disciples de Christ de devenir différents. Au moment où l'Esprit était là pour illuminer, pour les illuminer, pour le faire comprendre, les choses ont complètement changé pour eux. Ils ont pu accepter de faire des choses qu'avant, ils n'étaient pas capables de le faire. Parce qu'avec Christ qui est mort et ressuscité pour nous, les choses ont changé. Et le mystère, ou le secret, comment vous voulez appeler ça, qui était avant, a été révélé. Révélé pour nous. Et nous avons la grâce de comprendre les grandes vérités de Dieu. Mais ce n'est pas question simple. C'est parce que Dieu a voulu ainsi. Parce qu'il a eu la grâce de nous se révéler à nous. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il faut rester en prière, n'est-ce pas? Avec toute humilité. Accepter qu'il le fasse. Parce qu'il y a des choses qui sont parfois compliquées. Mais Dieu a la grâce de nous aider à comprendre ces vérités afin qu'on puisse avancer dans notre foi. Parce que s'il n'y aurait pas eu cette transformation en nous, comment aurions-nous pu lire dans le chapitre 3, le verset 1, 2, 3, 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On a été transformé, changé. L'homme qui était avant est mort. On est une nouvelle créature parce qu'on était transformé par Christ. Et cette nouvelle créature a l'espérance de la gloire. On ne peut pas avoir notre expérience. Et c'est seulement ceux qui ont été transformés en cette espérance. Et ils aiment cette espérance. On aime trouver les autres qui ont la même espérance que nous. On se sent bien quand on est entouré des gens qui ont la même espérance. Moi, je me rappelle toujours, je n'oublierai pas l'expérience de mon père quand il s'est converti et que il y avait plusieurs curés qui sont venus chez nous. Ben, et ça, il était impliqué dans l'église. Viens voir, tu vas chanter à la chorale. Il est allé, je dis, ben, ces gens-là, ils n'ont pas la même espérance que moi. Il ne se sentait pas bien avec. Malgré toute l'insistance du curé de retourner à l'église, il disait, ben, c'est... vous parlez n'importe quoi, mais vous ne parlez rien de la Bible. Ils n'ont pas la même expérience, n'ont pas le même désir. C'est des choses qui comptent, qui ne sont pas un rien du tout. On se sent bien qu'on a trouvé quelqu'un qui a la même espérance que nous. Si on a un collègue au travail qui a la même espérance, on se sent bien qu'il y a quelqu'un qui partage la même espérance. On aime cette espérance de la gloire. Et cette espérance de la gloire, ça se donne juste parce que Christ habite en nous, qui nous transforme, qui a pris notre place. Avant, c'était moi, n'est-ce pas? Moi, toujours moi. C'est mon ego. Mais cette place a été prise par Dieu. Et il continue pour nous montrer quel travail phénoménal, quelle lutte fait l'apôtre Paul. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Il amène un vrai combat. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Il utilise même le terme qu'il a utilisé au verset 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec force. C'est un mot du grec que vous le connaissez. Ce mot, c'est agonizai. Ça vient agoniser. C'est un mot qu'on utilisait pour ceux qui combattaient dans différents domaines sportifs, qui essayaient de faire un vrai combat pour gagner un concours. Il dit, utilise ce mot-là que nous avons pris pour notre langage à nous, pour quelqu'un qui souffre énormément, qui est en train d'agoniser. Mais c'est ce combat fort, avec toute la souffrance qui implique un tel combat, un tel désir de servir Christ, c'est celui-là qui le fait. Et il dit, c'est ça qu'il fait. Il y a une lutte, n'est-ce pas? Une lutte énorme qui nous aide pour nous à comprendre les vérités de Dieu. Il est là en train d'exhorter, d'instruire, de faire tout le travail, même un travail pour nous rendre, il dit, parfait. Alors, c'est quelque chose. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est des mots qui nous interpellent. Ils sont difficiles à les avaler, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose de simple. C'est vraiment la parole qu'on trouve dans l'épître aux Colossiens. C'est d'une densité énorme. On voit chaque mot pèse. Et c'est dur à comprendre, à l'accepter, à aller en avant. Parce que c'est comme ça que, enfin, disons, on nous donne de la vraie nourriture. Et finirons avec ce que lui veut pour chacun de ce chrétien qu'il aime, pour lequel il travaille avec une force. Cette force qui agit puissamment en lui, c'est ça qu'il dit dans le verset 29. Et puis parce que il cherche quelque chose, le vrai trésor pour nous. Et c'est quoi ce vrai trésor pour nous? C'est quoi ce vers lequel il veut nous amener? Parce que l'apôtre Paul veut nous amener un petit peu, chacun de nous, moi d'abord, vous aussi, à comprendre ce qui est ce mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et comment on peut arriver à comprendre un secret comme tel, où sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Si on regarde bien le verset 2 de chapitre 2, on dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » L'accent qui tombe ici, c'est quelque chose sur sur notre vie. Comment vivre notre vie? C'est quelque chose qui, en apparence, est simple, mais en réalité, ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'il met l'accent sur comment, quel est notre regard envers les autres. Il veut que notre cœur soit rempli de consolation. Chose qui n'est pas toujours évidente. On est rempli de consolations pour nous-mêmes. Pas toujours pour l'autre, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul veut que notre cœur soit rempli de consolations envers les autres. Il veut aussi qu'on soit unis dans la charité, dans l'amour. Charité, c'est trop technique, disons, trop théologique. Dans l'amour qu'on a pour les autres. Qu'on soit rempli de compassion et qu'on soit rempli d'amour pour les autres. Et cette manière d'être rempli de compassion et d'amour vers les autres, ça va parfaitement avec le texte que je venais de le lire dans Matthieu, où le Seigneur nous parle qu'il a été en prison, malade, il avait faim, il avait soif. Donc, amen. Toute la leçon qui est magnifiquement belle, en fin de compte, amène vers des questions très simples et très pratiques. Comment on se rapporte aux autres? Quelle est notre attitude envers ceux qui souffrent autour de nous? Quelle est notre attitude envers ceux qui ont besoin de les consoler, qui ont besoin de l'amour? Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on le fait vraiment? Et c'est vraiment intéressant de voir que l'apôtre Paul fait la liaison entre des choses tellement pratiques et tellement simples, d'être attentif à celui qui a besoin de nous, avec ce mystère qui est Christ. Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, tous les trésors de la sagesse et de la science sont liés à quelque chose d'extrêmement simple. Comment on s'apprécie les uns les autres? Comment on s'entraide les uns les autres? Comment on sont unis les uns avec les autres? De cette relation d'amour, de cette relation fraternelle qu'on devrait en avoir, est liée la grande compréhension des grandes choses de Dieu. Et j'ai trouvé ça encore plus fascinant. Plus on est en action envers l'autre, plus on va comprendre encore plus de ce qui est Christ. Christ, on le comprend dans les actions directes, en notre implication, en étant proactif, en voulant faire des choses, en nous donnant. On veut connaître Christ. Oui, on peut le connaître. Pleinement, la sagesse, l'intelligence, tous les trésors de la science. Si on veut aller de l'avant en aidant celui qui a besoin de nous. Donc, toutes les choses qui sont extrêmement compliquées et difficiles, se relève en fait à notre volonté de faire la volonté de Dieu. Donc, acceptation d'aller vers l'autre, de nous montrer qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, de montrer qu'on est habité nous-mêmes par Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et ça se produit parce qu'en nous, il y a quelque chose qui ne nous laisse pas vivre comme on était avant, qui ne nous laisse pas pécher. Et quand on pêche, on est affligé, on ne se sent pas bien, on est mal à l'aise. Et quand on voit que quelqu'un il souffre à côté de nous, on ne se sent pas bien. Même si, bon, parfois, il neige, il fait, je n'ai vraiment pas envie, là. Mais l'autre a besoin de nous. Et de accepter de faire ce geste d'amour envers les autres. Et cela va nous aider à comprendre encore plus les grandes vérités de Dieu qui sont ces transformations majeures qui se produisent dans nos vies. Et ça, c'est grâce au Seigneur. Amen.